Thessalonique, c'était et c'est toujours au nord de la Grèce, n'est-ce pas? Et dans notre Bible, nous avons deux lettres de l'apôtre Paul. Il ne faut pas que je dise Paul parce qu'on va penser que c'est Paul qu'une. De l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qui écrivait donc ses lettres depuis Corinthe. Alors, entre Corinthe et Thessalonique, il y a à peu près 500 kilomètres. Donc, ils avaient fait ça à pied, j'imagine, avec ses amis Sylvain, alias Silas, et Timothée. Alors, dans ces deux lettres de Paul aux Corinthiens, Paul commence ses lettres par des tas de compliments. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère. Imaginez qu'il nous écrive à nous, à Ozoir. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré les persécutions et les détresses que vous subissez. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons vu dans le premier chapitre de la deuxième lettre que l'apôtre fait encore des compliments à ses frères de Thessalonique et les encourage car, on le sait, les Thessaloniciens passaient par des persécutions, des sévices graves. Et ils étaient pas mal découragés. Et vous vous souvenez, dimanche dernier, Manu nous a parlé de ce mot « maturité ». Elle nous l'a fait répéter plusieurs fois pour qu'on s'en souvienne. Bon. Alors, dans ce deuxième chapitre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous allons voir ce matin. Alors, Paul touche un point essentiel de son enseignement concernant le retour de Jésus-Christ. Paul l'avait déjà abordé dans sa première lettre, vous vous souvenez peut-être. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui sont morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et dans le chapitre 5, « Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. » Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Voilà des informations qu'il donne dans cette première lettre. Et alors dans la seconde, l'apôtre Paul revient sur ce sujet du retour du Seigneur Jésus. Si on peut avoir la diapo suivante. Ah. Encore. Voilà. Peut-être c'est moi qui me trompe. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est celle-là? Je crois que je l'ai coupée en plusieurs morceaux. 2 Thessaloniciens 1 à 12. Oui, alors j'ai coupé en petits morceaux. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères, une chose. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribué. ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon. Car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous ai dit quand j'étais encore auprès de vous ? Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant, de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Alors l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Alors les Thessaloniciens croyaient avoir raté l'enlèvement, c'est-à-dire la réunion avec Jésus. Ils pensaient qu'ils avaient été laissés pour compte. Et du coup, ils étaient complètement tristes, désespérés. Et la première chose que Paul leur dit, il leur dit « Vous avez mal compris. Vous êtes laissés influencer par de faux enseignements. Peut-être même une fausse lettre. » C'est ce qui m'a fait penser aux fake news. Il y avait des rumeurs qui circulaient que le jour du Seigneur était arrivé. Est-ce que vous savez comment on dit fake news en français ? Infox, c'est ça ? Infox, voilà. À partir des mots information et intox, c'est ça ? Donc Paul s'empresse de leur dire, mais non, vous avez mal compris. Paul leur avait dit que Jésus reviendrait soudainement et ils avaient compris immédiatement. Là, peut-être on a la diapo en ce qui concerne la venue de notre Seigneur, avec la première phrase en gras. Non, c'est bien avant. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur, la phrase est en gras. Un peu plus loin. La suivante. Encore. Voilà, merci. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur, ne vous laissez pas, je lis simplement ce qui est en gras, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. C'est ça la fake news. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon. Paul leur dit, le jour du Seigneur n'est pas là. Jésus n'est pas revenu. Et pourquoi ? Et il leur donne la raison sur la diapo suivante. Car ce jour ne viendra pas. Voilà. Avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. Alors, il y a un M majuscule à méchanceté. Hein, il est bien question ici de l'antéchrist. Le dernier antéchrist. Parce qu'il y en a. La Bible nous dit qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu pas mal, et il y en aura d'autres, mais celui-là dont il est question, c'est le pire des pires. Alors cet antéchrist, on ne sait pas trop. Il semble que ce soit une personne, mais certains pensent que ça peut être un système aussi. Mais si on feuillette notre Bible, on s'aperçoit que l'esprit de l'antéchrist, hein, donc derrière l'antéchrist, bien sûr, il y a notre ennemi juré, le diable. L'esprit de l'antéchrist, c'est tout ce qui peut s'opposer au plan de Dieu, qui essaye de s'opposer au plan de Dieu. Mais on sait que Dieu aura le dernier mot, n'est-ce pas? Alors plusieurs fois, l'esprit de l'antéchrist a animé des situations, des hommes. Alors je pense aux Égyptiens qui ont essayé de tuer tous les enfants mâles hébreux, par exemple. On s'est dit, on va éradiquer ce peuple, comme ça on sera tranquille. Ça n'a pas vraiment marché. Il y en a notamment un qui a réchappé, n'est-ce pas, dans son panier, au fil de l'eau. Vous vous souvenez peut-être de Aman ou Aman, c'était un grand politique qui, à un moment donné, a voulu, dans le livre d'Esther, a voulu exterminer le peuple hébreu, le peuple juif. Ça n'a pas marché non plus. Il a mal fini. Et si j'ai bonne mémoire, ses fils aussi. Je pense à Hérode aussi qui s'est dit, je vais éliminer le Messie en faisant tuer tous les enfants, les jeunes enfants, juste après la naissance de Christ, de Jésus. Satan a incité des foules à précipiter Jésus de haute montagne, ou même certains opposants à lapider Jésus avant son heure. Jésus n'était pas destiné à être lapidé. L'esprit de l'antéchrist a même poussé Pierre, l'apôtre Pierre, à empêcher Jésus d'aller à la croix. Les persécutions envers le peuple de Dieu, le peuple juif et puis les chrétiens ensuite, n'ont pas manqué. Après l'ascension de Jésus, on peut facilement se mettre à la place des chrétiens qui ont vécu des choses horribles et qui pouvaient facilement imaginer que c'était la fin du monde, le retour du Seigneur était proche. Mais on sait que ce n'était pas encore le moment. Et on se souvient des empereurs romains cruels qui ont persécuté les premiers chrétiens. Et je peux imaginer que les croyants qui étaient accusés d'avoir été responsables de l'incendie de Rome, lorsqu'on allumait les chrétiens vivants comme des torches dans les rues de Rome, ou qu'on jetait aux lions des femmes, des enfants et des frères. Vous pouvez imaginer que là, ces hommes étaient l'antéchrist, peut-être le dernier, le pire des pires. Mais ce n'était pas le cas. Et bien sûr, on pense à l'Holocauste. On peut imaginer que, notamment les chrétiens qui étaient dans ces camps d'extermination, pouvaient imaginer que l'antéchrist, c'était cet homme avec cette petite moustache. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas encore le moment. Donc Paul dit aux Thessaloniciens, ce que vous subissez en ce moment, ce n'est pas le prélude du retour immédiat de Jésus. Soyez pas découragés. Alors, Paul leur dit, mais parce qu'avant que Jésus revienne, il faut que cet antéchrist, cet homme impie, fils de la perdition, alors vous vous souvenez du livre de Daniel, avec Jean-Claude qui nous avait parlé de cet antéchrist qui viendrait un jour, qui était annoncé donc à cette époque-là. Eh bien, cet homme, ou ce système, mais bon, on ne sait pas trop, il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu. Alors là aussi, il y a des controverses pour l'interprétation. Il n'y a plus de temple. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra reconstruire le temple pour qu'il puisse un jour, cet antéchrist, s'asseoir dans le temple de Dieu? On ne sait pas trop. En tout cas, Paul dit aux Thessaloniciens, ne vous laissez pas séduire, revenez aux certitudes, aux vérités bibliques. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent du mot d'ordre de notre association, l'association baptiste? Est-ce que vous vous souvenez du mot d'ordre de l'association baptiste? Non. Que dit l'Écriture? Voilà, c'est ça le mot d'ordre. Que dit l'Écriture? Un encouragement à dire, nous voulons savoir ce que dit l'Écriture. Nos pensées, c'est une chose, mais que dit l'Écriture? Alors, on a beaucoup parlé de cet antéchrist. Il n'est pas très sympathique. Cet antéchrist qui s'opposera au vrai Christ et qui cherchera à usurper sa place. Alors, on ne va pas trop y revenir ce matin, on a assez parlé de lui, de ce faiseur de mensonges, de prodiges, de miracles. Hein, il a une puissance, mais une puissance limitée et aussi dans le temps. Alors, pour l'instant, cet antéchrist est retenu. On ne sait pas trop par qui, d'ailleurs. Le texte nous dit qu'il est retenu. Alors, peut-être c'est le Saint-Esprit, peut-être sont des anges. Certains pensent que ça peut être l'Église, qui fait que, pour l'instant, il est retenu. Et pendant le règne de cet antéchrist, le texte nous dit que ceux qui ont endurci leur cœur, et ont refusé la grâce de Dieu seront condamnés. Et là, on a une phrase qui est un peu étrange, de 2 Thessaloniciens 10 à 12. L'être méchant usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Alors ça nous rappelle un petit peu ce qui est écrit à propos du Pharaon, hein, Dieu a endurci son cœur. Mais on sait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a un point de non-retour, il y a un moment donné où, comme dans l'arche de Noé, Dieu ferme la porte. C'est trop tard. Vous êtes parti tellement loin, vous avez tellement refusé, vous n'avez pas accueilli la vérité, vous avez aimé l'erreur plus que la vérité, ben c'est trop tard. Vous êtes perdu. Alors, sur la chronologie des derniers temps, qui précèdent le retour de Jésus, il y a beaucoup de débats entre les chrétiens, y compris dans le monde évangélique. Alors, il serait trop long d'évoquer toutes les propositions sur qui sera enlevé, est-ce que tout le monde sera enlevé en même temps, est-ce que ce sera qu'une partie, enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe pour le peuple juif lui-même? Il y a des interprétations différentes. Bon, le fameux millénium, hein. Il y a un verset qui parle des 1000 ans et ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je vous propose plutôt ce matin pour ce sujet du retour du Seigneur de voir ensemble quelques vérités où là, tout le monde est d'accord. Alors, le premier point, personne ne sait quand Jésus reviendra. Ça, c'est clair. Jésus l'a dit. Quant au jour et à l'heure où cela se reproduira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père ne le sait. Personne sauf le Père et lui seul. Donc l'idée que certaines sectes, notamment les témoins de Jéhovah, ont donné des dates, c'est complètement farfelu, c'est complètement contraire à ce que dit l'Écriture. Deuxième point, Jésus reviendra en personne et corporellement. Ça, c'est clair aussi. Ce Jésus, acte 1, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et 1 Thessaloniciens, donc la première lettre, car le Seigneur lui-même a un signal donné, hein, c'est lui-même. Alors il y a bien d'autres versets, hein, j'en ai choisi juste un ou deux. Ensuite, lorsque Jésus reviendra, Jésus sera clairement identifié. Il n'y aura pas d'équivoque. Est-ce que ça pourrait être Jésus ? Non, non. Ça sera très clair. Jésus sera visible. Alors, on vous dira, le Christ est ici ou il est là ? N'y allez pas, ne vous précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme à son jour. D'accord ? Ce n'est pas des suppositions. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Dans le début de la lettre aux Thessaloniciens, lorsque le Seigneur se révélera du ciel, c'est lui qui se révélera. On n'aura pas besoin d'aller le chercher. 1 Jean 3, 2, « Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. » Il va se manifester. Ensuite, ce sera un événement universel, un événement cosmique planétaire. Ainsi, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et Apocalypse 1, 7, « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » Tout le monde. Son retour sera glorieux. Merci. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Matthieu 25. Et Luc 9. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Apocalypse 16. Je vis le ciel ouvert et voici, je vis un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. La gloire du retour de Christ. Et ce sera la fin d'une époque. Lors de sa venue, Christ rassemblera son peuple afin qu'il soit avec lui pour toujours. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, une félicité éternelle pour ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ et qui ont accepté son sacrifice. Apocalypse 21, « Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. Toutes choses seront nouvelles. » Le monde ne va pas s'améliorer. Mettons notre vie en ordre. Notre vie en ordre avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Afin d'être dans le lot des rachetés. Ceux qui vont passer leur éternité avec Dieu. Alors la conclusion, c'est Jésus qui la donne dans Luc 25-40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors voilà un mot d'ordre, veillons et prions. Amen. Seigneur, nous ne savons pas quand tu reviendras pour nous chercher. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais nous savons, Seigneur, que tu reviendras parce que tu l'as promis. Nous voulons, Seigneur, que tu nous purifies, que tu continues à nous édifier, à nous faire marcher dans tes voies, afin que lors de ton retour, Seigneur, nous puissions te voir face à face. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui, autour de nous, ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui hésitent, nous prions, Seigneur, que tu les touches, qu'ils ne résistent plus. Seigneur, encourage-nous aussi à témoigner de ton amour, de ton œuvre sur cette terre. Toi qui as donné ta vie en rançon pour nous. Et Seigneur, si tu devais revenir bientôt, donne-nous, Seigneur, aussi la joie de savoir que tu reviens dans ta gloire et que tu nous accueilleras comme tu nous as promis.